Merci d'écouter le studio Kalangu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de 18h au micro Nefis Adam Sirfo. À présent, les titres de ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire a, dans une circulaire en date du 8 février 2017, demandé à tous les responsables de son ministère de procéder à une évaluation des enseignants en mars prochain. Ces enseignants ont rejeté cette démarche et l'ont fait savoir dans une lettre adressée au ministre. De nouvelles mesures saoudiennes et nigériennes ont été prises dans le cadre du Hajj 2017. Plus de détails avec le secrétaire général adjoint de l'Association nigérienne des agences de pèlerinage à Anap. Et puis, dans la région de Zender, un réseau de malfrats a été démantelé lundi dernier. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Zender affirme que les investigations se poursuivent. Enfin, dans la partie magazine, vous suivrez les explications d'un constitutionnaliste sur les questions de la levée d'immunité parlementaire et la saisine de la Haute Cour de justice lorsque des députés ou des ministres sont mis en cause par la justice. Dans une circulaire en date du 8 février 2017, le ministre de l'enseignement primaire Daouda Mamadou Marté demande aux responsables de toutes les régions de son ministère de procéder à l'évaluation de tous les enseignants, je cite, à créer en main et de prendre toutes les dispositions utiles pour sa réussite. Une démarche rejetée par la synergie d'action Cause Niger et SINASEB qui a fait connaître ses observations dans une lettre adressée au ministre le 18 février 2017. Détail avec Habibou Garba.
Dans son courrier, la synergie d'action Cause Niger et SINASEB indique qu'il y a des incohérences sur la forme de la circulaire du ministre. Car selon elle, je cite, « L'évaluation d'un agent de l'État ne nécessite pas la constitution d'un dossier comprenant un certificat de nationalité et une copie de diplôme, comme s'il s'agit d'un test de recrutement. L'objet exact du texte de maths et de français prévu par le ministre n'est pas non plus défini. » Fin de citation. La synergie d'ajouter que cette évaluation sur le fond n'est nullement prévue par la loi et les règlements qui régissent les agents de l'État. Car l'article 94 du statut général de la fonction publique de l'État stipule, je cite, « Le fonctionnaire en activité ou en détachement, quel qu'en soit son poste d'affectation, est évalué annuellement par son supérieur hiérarchique immédiat, qui exerce le pouvoir d'évaluation sur la base d'un cahier des charges préalablement établi. » Fin de citation. Ces mêmes dispositions, rappellent la synergie, sont aussi prévues par l'article 158 pour l'évaluation des agents contractuels.
A noter que les représentants de la coalition Cause SINASEB ont été reçus hier par le ministre de l'enseignement primaire qui leur a demandé des propositions de sortie de crise. Des assemblées générales ont été organisées dans tout le pays pour préparer la réponse au ministre. L'appel à la grève de 48 heures a été maintenu. Ce boycott de l'évaluation n'est pas du goût de l'association des parents d'élèves de Maradi qui estime que si les enseignants ne se reprochent rien, ils ne doivent pas s'opposer à cette évaluation. Abdelkarim Moussa, secrétaire général adjoint de l'association au micro de Mohamed Maman.
Ce qui nous tient à cœur, l'association des parents d'élèves veut que l'enseignant soit dans de bonnes conditions de travail. C'est-à-dire, il n'a pas d'arriéré et tous ses droits sont respectés. Donc, comme maintenant on dit, on parle de l'évaluation, nous supposons que ça, c'est dans le cadre de son travail même et que nous, on ne voit pas l'inconvénient de l'évaluer. Parce que quand tu rentres même en ville jusqu'en rural, on doit constater le niveau des élèves. Il n'est pas forcément dit que toujours ce sont les élèves qui vont rester dingues. Ne comprends pas. Maintenant, si on a constaté des lacunes dans l'éducation, si on dit qu'on voulait évaluer, qu'on voulait donner une qualité, mais du côté des parents de l'élève, ils sont très contents parce qu'ils veulent que vraiment ces enfants reçoivent des formations vraiment correctes.
Et puis en bref, les cours ont repris ce matin à l'université de Maradi, comme promis hier par le recteur Dr Zakari Moussa. La faculté d'agronomie, la faculté de médecine et l'institut universitaire de technologie fonctionnent normalement. Toutefois, selon Sani Garba Haruna, secrétaire général du comité exécutif de l'UNUM, les cours n'ont pas encore repris à la faculté des sciences et techniques. Dans le cadre de l'organisation du pèlerinage 2017, le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra Koho et l'association nigérienne des agences de pèlerinage ANAP se sont réunis hier mardi 21 février. Selon Hassan Mani, autant pour moi, secrétaire général adjoint de l'ANAP, deux nouvelles mesures saoudiennes et nigériennes ont été prises, notamment au niveau du quota des pèlerins et des frais de transport. Rappelons que les pèlerins nigériens, lors du Hajj 2016, avaient été confrontés à de nombreux problèmes de transport. Mais selon le Koho, ce problème sera résolu dans le cadre de la conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah Kopasho. Plus de détails avec Hassan Mani, secrétaire général adjoint de l'ANAP.
L'une des premières mesures qui a été acclamée même par les Nigériens, il s'agit de la suppression de la réduction de 20% applicable au quota de tous les pays. On a eu un quota de 15 891, donc environ 16 000. Nous, nous savons pertinemment que le Hajj cette année sera coûteux parce que, si vous prenez en ce qui concerne la navette qui passe de 180 riyals à 300 riyals saoudiens, au lieu que le rehausse un peu le prix ou bien quoi là, non, elle double même le prix. L'année dernière, nous avons attiré l'attention du Koho que c'est pas bon de fixer un prix parce que les produits ne s'achètent pas au Niger, c'est en Arabie Saoudite. Et nous, on ne peut pas revenir encore dire aux pèlerins, il y a eu une augmentation, il faut augmenter 1 franc ou 2 francs. Non. Ce qui fait que vraiment, moi, je pense qu'il n'y aura pas de publicité de prix cette année. Mais seulement, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse vraiment s'entendre. Maintenant, ce qui est capital, c'est l'inscription. Le système sera ouvert peut-être dans 72 heures, maxi dans 4 jours.
Vous venez là d'entendre le secrétaire général adjoint de l'ANAP, Hassan Mani, au micro de Rahilatou Souman. Autre aspect de cette édition, la police de Zender a démantelé un réseau de voleurs des motos lundi dernier. Ils opéraient dans la ville de Zender et de Miria. Les motos volées étaient ensuite vendues sur la route d'Agadez. Les investigations continuent selon Moussa Cheibou, procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Zender. Il est au micro de Ali Keita.
Les éléments de la police ont réussi à démanteler un grand réseau qui s'est spécialisé dans le vol des motos. Et c'est un réseau qui a des ramifications un peu partout puisque les arrestations ont été opérées notamment à Zanderville même, à Miria. Il y en a même qui ont été interpellés par les éléments de la police d'Agadez et qui ont été transférés ici à Zander. Ils sont au nombre de 11 personnes, dont une femme. Après leur présentation, ils ont été déférés au parquet et une information judiciaire a été ouverte hier contre eux tous pour des faits de vol qualifié, c'est-à-dire les vols en réunion commis la nuit avec escalade, avec effraction. Il y en a également qui ont été poursuivis pour complicité de ces vols. Et tous, ils ont été poursuivis pour association des malfaiteurs. Il y en a qui sont poursuivis pour recel des malfaiteurs et recel d'objets volés. Et ils ont été écroués à la maison d'arrêt des Zander.
Moussa Cheibou, procureur de la République auprès du tribunal de grande instance à Zender. Retour ici à Niamey où la première édition du forum Sahel Innove, initié par le centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger Sipmen, se poursuit. Outre les innovateurs, il y a également des structures qui sont prêtes à accompagner les jeunes porteurs d'idées de projets. C'est le cas du centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey CUM, structure d'accompagnement pour la création et le développement d'entreprises innovantes. Souleymane Abdoulaye, accompagnateur marketing communication du centre incubateur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, nous donne des détails sur les principaux sous-programmes.
Le premier sous-programme d'activité, c'est l'éveil entrepreneurial, autrement dit susciter l'esprit, sensibiliser les gens, les informer, en tout cas par rapport à l'entrepreneuriat. Le deuxième objectif, c'est la pré-incubation, c'est-à-dire structurer l'idée de création d'entreprise jusqu'au plan d'affaires. Et le troisième programme, c'est le programme d'incubation. Une fois le porteur de projet dépose, si le projet est vraiment innovant, il est retenu, le porteur de projet qui a vu son entreprise créée va être hébergé au niveau du centre incubateur avec toutes les commodités, un bureau, un ordinateur connecté à Internet haut débit, un secrétariat partagé, en tout cas toutes les commodités nécessaires pour que cette entreprise soit une réalité. Et il va être dans le centre incubateur pendant au moins 24 mois maximum. Donc au bout de ces 24 mois, on suppose que l'entreprise est née, elle est solide et elle peut sortir de l'incubation pour se prendre en charge elle-même. Donc la cible principale, ce sont les étudiants en fin de cycle de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les enseignants chercheurs, les chercheurs et les PAT de l'université.
Propos recueillis par Alassane Kouzi Mahmadou. Lancement officiel ce matin au stade municipal de Niamey des activités de la 6e édition de la semaine des scolaires section collège et lycée de la région de Niamey. Durant 4 jours, de nombreuses activités sont prévues à travers la capitale. Medaji Habibou, secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, explique au micro de Soumana Amadou.
Après un long moment d'intense d'activité, il faut un moment de distraction pour libérer son esprit. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a initié la semaine scolaire. Les activités, il y a la poésie, il y a danse, il y a skate, match de football inter-établissement. Et aussi, nous avons proposé le thème des propriétés. Demain, Inch'Allah, on va faire le lancement de la salubrité au niveau de l'aéroport. C'est Niamey Niala qui parraine ça. Après, on va se prendre au niveau de la MJC Diadisekou pour une conférence sur l'hygiène. Comment sauvegarder le bien de la République. Il y aura d'autres activités dont du sang pour apporter notre soutien à nos frères qui sont malades. Par rapport à l'année académique, j'aimerais tirer l'attention de mes camarades de bien étudier. Comme l'État dit qu'il est engagé pour une école de qualité, donc c'est à l'État aussi de résoudre le problème des syndicats, de prendre leur doléance en compte pour que l'école nigérienne puisse gagner encore sa lettre de noblesse.
Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative
99.4 FM.
Studio Kalangu.
Place à présent à la partie magazine de cette édition. Nous vous en parlions hier. Le Conseil des ministres du 17 février dernier a examiné et approuvé 3 requêtes afin de procéder à la levée d'immunité parlementaire d'un député et de la mise en accusation de 2 anciens ministres. Qu'est-ce que la levée d'immunité parlementaire? Qu'est-ce que la mise en accusation d'un membre de gouvernement? Mena Karte Boukara, secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes, répond au micro de Tarnan Foudaï.
L'immunité parlementaire est envisagée comme une couverture concédée aux députés à l'effet de le protéger contre certaines procédures judiciaires. Donc l'immunité parlementaire, elle protège non seulement le député, mais aussi elle protège la fonction de député. Ce qui fait qu'un député, quand il commet des manquements vis-à-vis de la loi, il y a des procédures avant de l'arrêter.
Quelles sont ces procédures-là?
Alors, la procédure pour entendre un député, c'est celle de la levée de l'immunité parlementaire. Parce que l'article 88 de la Constitution, il offre une grande couverture au député national en ce sens que, sauf cas de flagrant délit, il ne peut être recherché, arrêté et détenu mais qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale si elle est en session et avec l'autorisation du bureau si l'Assemblée n'est pas en session. Quand il y a lieu d'enlever l'immunité parlementaire d'un député pour le faire entendre devant un juge, alors là, il y a une procédure qui consiste donc à mettre en place une commission parlementaire qui va être saisie de la levée et cette commission va entendre le député. Et puis, au niveau de l'Assemblée nationale, les articles 151 et suivants indiquent qu'il faut faire un vote à la majorité des 2/3. Si cette majorité qualifiée elle est obtenue, eh bien, l'immunité est levée. Et en ce moment, le député en question peut être entendu et éventuellement jugé par un juge.
Qu'en est-il de la mise en accusation d'un ministre?
La Constitution fait mention des membres du gouvernement qui venaient à commettre des infractions qualifiées de crimes ou délits à l'occasion de leur fonction. Alors là, ils bénéficient aussi d'un privilège de juridiction en ce sens qu'ils sont attrait devant la Haute Cour de justice, qui est donc une juridiction instituée pour connaître un certain nombre d'infractions, notamment le cas de haute trahison, si c'est le chef de l'État ou bien un ministre qui venait à commettre des infractions qualifiées crime ou délit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors là aussi, du fait de ce privilège de juridiction-là, le ministre n'est pas tout de suite arrêté et déféré devant ce tribunal. Il y a aussi une procédure. Cette procédure-là, c'est que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on vote la mise en accusation. Et là aussi, il y a une majorité des 2/3 qui est qualifiée pour obtenir la mise en accusation. Et si cela est obtenu, donc, le ministre en question est attrait devant la Haute Cour de justice.
Donc, c'est la Haute Cour de justice seulement qui a compétence à juger.
C'est la Haute Cour de justice qui est compétente pour juger donc les ministres, les membres du gouvernement, pour les infractions qualifiées de crimes ou délits qu'ils ont commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Retenez aussi que la Haute Cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée nationale. Elle est composée de 4 députés que l'Assemblée nationale élit en son sein et 3 magistrats. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.